France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Depuis une semaine, depuis l'attaque massive de drones et de missiles lancés par l'Iran sur Israël et leur interception efficace par l'État hébreu et ses alliés occidentaux, la même question hante les chancelleries. Comment éviter un nouvel embrasement? Comment rétablir une forme de dissuasion impliquant tous les acteurs régionaux et leurs parrains respectifs? Le gouvernement israélien a répondu en lançant hier une double opération à impact limité, une attaque de drones sur l'Iran dans la région d'Ispahan à proximité des installations nucléaires iraniennes et des frappes au sud de la Syrie sur une position de radar. Prévenu, Washington a dit sa désapprobation. Jusque-là, Téhéran avait paradoxalement offert à Benjamin Netanyahou le soutien accru des États-Unis, des Européens et de certains pays arabes au moment où son acharnement contre la population civile palestinienne renforçait son isolement. Peuvent-ils maintenant le convaincre de ne pas aller plus loin quand son sort personnel et la survie de sa coalition le poussent au contraire à la politique du pire? Les Occidentaux renforcent leurs sanctions contre l'Iran alors que Moscou et Pékin, tout en appelant à la retenue, ne lui ménagent pas leur soutien. Quel impact sur le régime des mollahs et des gardiens de la révolution, sur l'accélération du programme nucléaire? Quelles conséquences pour la population iranienne? Forgé par la guerre en Ukraine, renforcé par le rapprochement entre la Russie et la Chine, le front anti-occidental passe encore une fois par le Moyen-Orient. Comment répondre alors à l'accusation de deux poids, deux mesures, lancée cette fois par Kiev? Pourquoi ne pas lui accorder les mêmes moyens antimissiles, antidrones qu'à Israël? À Washington, la Chambre des représentants pourrait débloquer ce soir le paquet d'aide financière tant attendu. Quelle corrélation entre les deux théâtres diplomatiques et militaires, Ukraine, Moyen-Orient, sinon les souffrances des populations, la mise à l'épreuve de la solidarité occidentale et de la capacité d'influence des États-Unis? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Héloïse Fayet. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Azadeh Kian, professeure de sociologie, directrice du département de sciences sociales et du CEDREF, le CEDREF, Centre d'enseignement d'études et de recherche pour les études féministes à l'Université de Paris Cité. Denis Charby, ravi de vous accueillir, professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël et enseignant pour quelques jours encore à Sciences Po Menton. Et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Bruno, commençons ensemble. L'Iran a brisé le tabou en attaquant directement le territoire d'Israël. Et hier, Israël, à l'aube, a procédé à une riposte, disons, calibrée en visant la base militaire près d'Ispahan, à partir de laquelle avait été lancée l'attaque de samedi dernier. Les sites nucléaires n'ont pas été touchés. À quoi assiste-t-on alors qu'évidemment l'anxiété c'est d'essayer de rétablir cette forme de dissuasion qui avait à peu près fonctionner jusqu'ici entre l'Israël et l'Iran?
Je ne suis pas sûr que la dissuasion ait toujours fonctionné entre Israël et l'Iran. Rappelons quand même que cela fait 40 ans que ces deux pays s'affrontent d'une manière ou d'une autre, mais le plus souvent indirectement. Ce qui s'est passé hier matin, c'est à une forme de ce que j'estime être une désescalade. À savoir que Israël avait le choix entre riposter au même niveau, c'est-à-dire envoyer des centaines de missiles et de drones depuis le territoire israélien jusque sur le territoire iranien, escalader encore plus en s'attaquant, pourquoi pas, comme certains le pensent, mais j'ai toujours dit que pour moi c'était pas une option viable pour l'instant, en tout cas au site nucléaire. Et puis à désescalader, c'est-à-dire à répliquer, mais d'une manière qui montre qu'on ne souhaite pas que les choses aillent plus loin. C'est une frappe quasiment symbolique qui reproduit quelque part les frappes iranienne sur la base aérienne israélienne, qui était un des objectifs visés par cette frappe massive iranienne. Et donc, cela dit, nous confirmons que nous sommes capables, si nous souhaitons, de taper sur certaines de vos installations, sur votre territoire. Nous faisons ça sur une cible exclusivement militaire. Nous ne voulons pas que les choses aillent plus loin. Donc c'est une tentative de, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une tentative de refroidir la température. En tout cas, c'est l'intention israélienne. Il semble, mais nous verrons ce qu'en disent vos invités, il semble que du côté iranien, on l'ait bien compris comme cela, car l'un des problèmes, et j'en terminerai là, l'un des problèmes dans cette gestion de l'escalade, c'est on peut avoir des intentions, mais est-ce que vos intentions sont bien comprise par la partie adverse.
La partie adverse, Bruno, qui est en l'occurrence Téhéran, a réagi comme s'il ne s'était pratiquement rien passé.
Oui, enfin, en tout cas, je laisserai à Zadekian décrypter la réaction iranienne, mais j'allais dire que tout s'est passé, on va dire, de manière un peu nominale, de manière conforme au scénario qu'on espérait écrit, à savoir que les choses s'arrêtent à peu près là. Il était impensable pour Israël de ne pas réagir. Je serais surpris qu'il n'y ait pas d'autres actions israéliennes, peut-être moins visibles contre les intérêts iraniens, car tout de même, un pays qui voit 300 missiles et drones arriver sur son territoire, à mon sens, se doit de faire un petit peu plus que qu'envoyer quelques quadricoptères, puisque c'est le terme utilisé pour ces petits drones sur une base militaire. Donc il y aura d'autres choses, mais effectivement, Téhéran très clairement semble avoir décidé de ne pas en rajouter.
Denis Charby, vu d'Israël, certains sondages prouvaient en fait que l'opinion publique israélienne était très partagée, mais plutôt négative. Quant à la nécessité d'une riposte israélienne, à votre avis, le gouvernement Netanyahou a répondu de façon ajustée aux attentes de l'opinion publique ?
Il me semble que c'est comme ça que l'on interprète ce qui s'est passé hier. C'est vrai que les sondages montraient que 2/3 de la population israélienne s'opposait à toute riposte qui ne serait pas coordonnée avec les États-Unis. Alors les États-Unis peuvent toujours dire qu'elles ne sont pas d'accord, mais voilà, en tout cas, elles étaient prévenues. Il fallait surtout éviter un embrasement général. Et je crois que, oui, on éprouve une certaine satisfaction à l'idée de ne pas laisser l'Iran complètement impuni. Après tout, il y a quand même une thèse qui circule en Israël depuis le 7 octobre, c'est que l'Iran est aux manettes et derrière, le Hamas a payé, y compris d'ailleurs des civils palestiniens, comme on sait. Le Hezbollah a payé également, même si là aussi la conflagration n'est pas générale. Et seul l'Iran s'en sort. Alors, du 7 octobre à il y a une semaine, effectivement, l'attitude israélienne a été extrêmement de l'ordre de la retenue. Il y a eu l'attaque de samedi dernier. Et là, bien sûr que le dilemme, c'était est-ce qu'on riposte en fonction de l'intention, et à ce moment-là, effectivement, on peut aller très fort, ou est-ce qu'on riposte en fonction des résultats. Les résultats ayant été médiocres, c'est vrai qu'on avait le choix entre ne rien faire, et ce qui plaidait d'ailleurs pour ne rien faire dans l'immédiat, c'est la perspective de la Pâque juive, ça dure une semaine, les gens se promènent, etc. Donc c'était le souhait de ne pas mettre en péril ces projets de la population civile en Israël. Et avec cette riposte qu'on peut qualifier de graduer, de calibrer, de modérer, je dirais que là, on a une fantastique, mais je dirais depuis une semaine, une fantastique démonstration de ce qu'on appelle le langage tacite ou la diplomatie tacite, c'est-à-dire on envoie des messages, ils sont calculés, effectivement, il faut s'assurer que tout le monde a bien compris le message, et bien entendu qu'on est... On verra bien comment les Iraniens vont répondre. Jusqu'à présent, il semble confirmé. Voilà, tout le monde comprend à peu près le même langage. Tout le monde comprend les symboles. C'est de cela qu'il faut effectivement s'assurer. Je pense que la communauté internationale s'en mêlera pour bien s'assurer que tout le monde a bien compris le message. On est monté d'un palier au-dessus. Et on s'arrête là et on apaise la situation.
Héloïse Fayet, on s'arrête là, mais enfin, on a quand même l'impression, pour nous qui sommes profanes, à un espèce de jeu de fléchettes entre une puissance nucléaire, c'est-à-dire Israël, et l'Iran qui souhaite le devenir, on a bien compris que les installations nucléaires iraniennes sont précisément dans la région d'Ispahan, en particulier l'un des grands laboratoires d'enrichissement d'uranium, mais Israël n'a pas tapé les sites nucléaires iraniens.
Alors, juste une précision avant d'arriver au nucléaire. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'effectivement, on emploie en fait pour la riposte israélienne d'hier exactement les mêmes qualificatifs que pour décrire l'attaque iranienne du 13 avril, qui elle-même, et ça je crois qu'on n'en a pas encore parlé, était dans le narratif iranien une riposte à l'attaque israélienne du 1er avril.
Donc qui dans donc l'attaque contre le consulat,
enfin une annexe consulaire à Damas qui a tué plusieurs gardiens de la révolution, notamment des hauts gradés. Et donc en fait, effectivement, Israël voit son attaque d'hier comme une riposte à l'Iran, alors que l'Iran voyait déjà son attaque du 13 avril comme une riposte à Israël. Donc voilà, on est dans une succession, une tour de domino en fait de ripostes, et qui a évidemment une dimension nucléaire, étant donné que Israël, même si il y a une ambiguïté autour de la possession par l'arme nucléaire, enfin par Israël de l'arme nucléaire, est évidemment pour l'instant la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient. Mais étant donné qu'il y avait quand même justement un objectif de limiter l'escalade, et ça me paraît, comme Bruno Tatrel l'a dit, ça paraissait extrêmement peu probable qu'il frappe, en tout cas d'une manière visible, les installations nucléaires iraniennes. Déjà parce que c'est quand même très compliqué. Si vous voulez faire des dégâts considérables et durables sur le programme nucléaire iranien, vous avez besoin de bombes pénétrantes. Les Israéliens en possèdent quelques-unes, mais ils auraient eu besoin d'un soutien américain, déjà en termes de ravitaillement, de munitions et puis de suppression des défenses anti-aériennes. Et les Israéliens disposent d'autres moyens pour essayer de nuire partiellement au programme nucléaire iranien.
Notamment des moyens cyber.
Voilà, des moyens cyber, employés. On l'avait vu avec l'attaque du virus Stuxnet. Et puis, évidemment aussi, des assassinats ciblés de scientifiques iraniens. Parce qu'en fait, le problème n'est pas tellement les installations nucléaires elles-mêmes, mais bien la connaissance qui a été acquise par le régime. Et d'ailleurs, on a bien vu que cette menace de prolifération était bien maniée par les gardiens de la Révolution, étant donné que le responsable au sein des Pazaran de la sûreté nucléaire a annoncé que, en fonction de l'évolution du contexte géopolitique, l'Iran pourrait revoir sa posture nucléaire. Donc là aussi, c'est un signal très clair envoyé qu'ils sont capables éventuellement de franchir de nouvelles étapes dans le programme nucléaire s'ils en ressentent le besoin.
Alors précisément, où en est ce programme nucléaire ?
Alors, les derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique font état, il me semble, de 120 kilos d'uranium enrichi à 60%. En gros, l'Iran, selon les estimations, aurait besoin d'un peu moins d'une semaine pour accumuler la matière nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Là, on ne parle que de la matière fissile. Pour militariser en fait cette matière, c'est-à-dire la mettre sur un missile balistique ou un autre projectile de votre choix et pouvoir l'envoyer dans un pays de la région, l'Iran aurait besoin de plusieurs mois, voire années supplémentaires. Donc en fait, l'Iran, on peut le dire, se trouve à un état du seuil nucléaire, mais il lui reste plusieurs étapes à franchir avant d'avoir une arme nucléaire fonctionnelle. Et surtout, même s'il peut y avoir un débat là-dessus, à mon sens, les bénéfices aujourd'hui que tirerait l'Iran d'une arme nucléaire fonctionnelle sont largement inférieurs au coût que ça représenterait. Au coût financier, au coût technologique, au coût stratégique, parce qu'on se doute bien que si l'Iran fait la démonstration d'une possession de l'arme nucléaire, ni Israël ni les États-Unis les laisseront faire.
Azadeh Kian, pourquoi Téhéran choisit-il depuis hier, d'une part, de minimiser la riposte israélienne, et en même temps, c'était en plus le 85e anniversaire hier du guide suprême, l'idée que, voilà, on a fait ce qu'on voulait faire, nous sommes très contents de l'opération du 13 avril, et néanmoins, c'est la première fois depuis la création de la République islamique, que l'Iran attaquait directement le territoire israélien.
Absolument, c'est la première fois, mais je pense que cette attaque était aussi une attaque très contrôlée dans la mesure où l'ensemble des voisins de l'Iran avaient été mis au courant, et les États-Unis aussi d'ailleurs, de l'intention des dirigeants iraniens d'attaquer Israël. Donc ce qui a permis à la fois aux Américains, aux Français, mais aussi aux Jordaniens de faire le nécessaire afin que les missiles et les drones iraniens ne puissent pas atteindre Israël. Ça, c'est important à le dire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que il s'agissait pour les Iraniens de montrer leur force, leur puissance, leur capacité effectivement d'attaquer Israël, tout en évitant d'imposer des dégâts ou de provoquer des dégâts irréparables en Israël. Et c'est précisément ce que les Israéliens ont fait aussi, d'où le discours aujourd'hui des dirigeants iraniens pour dire non, finalement, c'était rien du tout, comme les Israéliens qui ont dit non, il y a juste une petite fille qui a été blessée dans le désert de Negev. Donc, en fait, pour les deux pays, il s'agit là de montrer leur puissance, l'un nucléaire Israël, l'autre puissance militaire, et également, pour ma part, je pense que les Iraniens sont en train de rassurer leurs alliés dans la région, en particulier des groupes qu'on appelle proxy ou des groupes de soutien, à commencer par le Hezbollah libanais, à commencer par aussi les Yéménites, aussi de Yémen et les Irakiens, etc., pour dire on a la capacité, si on veut, on peut. D'ailleurs, ils ont
précisé... Pardon, je vous interromps, c'est une manière, en fait, de prouver...
leur puissance
à toutes ces organisations qu'ils financent et qu'ils arment très très largement, Hamas compris,
Hamas, oui.
Pour dire nous sommes forts, ne
Absolument.
Vous inquiétiez pas.
Oui, le moment venu, on a la capacité. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils n'ont pas utilisé leurs missiles supersoniques et que pour l'instant, ils se réservent effectivement la possibilité de les utiliser si les attaques israéliennes ou la riposte israélienne étaient importantes. Ce qui n'est pas le cas. Je pense que après l'attaque iranienne contre Israël, d'ailleurs, ils ont annoncé, on a fait ce qu'on avait promis de faire. D'ailleurs, c'était justement le titre de l'intitulé de leur opération. On a fait ce qu'on avait promis de faire, et maintenant, pour nous, l'affaire est close.
L'intitulé, ouvrez les guillemets. Promesse honnête.
Promesse honnête, absolument, de la part d'un régime qui est tout sauf honnête.
Alors, un régime où l'on voit, en fait, la montée en puissance des gardiens de la Révolution.
Oui,
il y a une
oui.
militarisation
de plus en plus
du régime des ayatollahs.
Absolument, et à ne pas oublier que dimanche, c'est-à-dire le lendemain des attaques iraniennes, l'ambassadrice de Suisse à Téhéran, qui protège les intérêts états-uniens, a été convoquée, non pas par le ministère des Affaires étrangères, mais par les gardiens de la Révolution. Et donc, nous, on le savait que ce sont des gardiens qui, en réalité, dirigent le pays et contrôlent le pays, mais cette fois-ci, même pour les étrangers, pour les occidentaux et autres, c'est devenu très clair, et ils ont voulu d'ailleurs montrer que ce sont eux qui sont à la commande en Iran, et effectivement, c'est... Alors, moi, je voudrais aussi ajouter, par rapport à ce que disait Héloïse Fayet, que le responsable, effectivement, de l'éclair iranien a annoncé que si Israël allait loin, nous aussi, on va changer notre protocole, etc., concernant le nucléaire, c'est-à-dire on va aller... Enfin, il laisse entendre que l'Iran a la capacité d'aller vers la bombe, mais en même temps, ils ont annoncé que M. Grossi,
le
patron de l'agence, va aller en Iran très bientôt, et que les inspecteurs de l'AIEA vont recommencer à faire leur inspection dans les installations. Alors,
donc,
pourquoi l'Iran fait ça ?
Donc là aussi, un geste pour calmer les inquiétudes.
Absolument. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de guerre, ni contre Israël, ni contre les États-Unis. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire face à une réelle guerre contre États-Unis et Israël.
Denis Charby, le Hezbollah libanais, dont la montée en puissance contribue à détruire ce qui reste de ce malheureux pays, c'est la force d'appoint la plus puissante pour le régime de Téhéran, et c'est aussi pour le gouvernement israélien, pour l'état-major israélien, la tentation au nord d'Israël, évidemment, d'aller au-delà c'est plus que des escarmouches, mais enfin des incidents de part et d'autre, avec des morts de part et d'autre, 80 000 Israéliens qui ont dû fuir cette région-là. Néanmoins, est-ce que le gouvernement israélien pourrait être tenter maintenant de s'en prendre au Hezbollah en direct.
Je dirais que c'est le grand dilemme qui traverse la société israélienne aujourd'hui, et donc la classe politique et l'état-major, d'une part, le Hezbollah a une capacité militaire autrement plus puissante que celle du Hamas, et donc on se dit, si avec le Hamas, au bout de 6 mois, nous n'avons pas encore obtenu la décision sur le terrain, la décision militaire, comment sera-t-il si une opération commence ? D'un autre côté, il y a des pressions très fortes, hein, de la part de ces 80 000 habitants des localités qui ont été évacuées, hein, qui se retrouvent au centre du pays et qui ne sont toujours pas retournés, contrairement aux habitants des localités qui entourent la bande de Gaza, qui eux sont déjà reviennent déjà chez eux et qui disent, mais on ne peut revenir si quelque chose ne change pas la donne et si on reste toujours sur la menace du Hezbollah. Alors, voilà, donc les risques sont... La critique d'un côté, elle est entendue. Les risques sont énormes, parce que là, c'est pas les localités du nord qui seront visées. C'est Haïfa, voire Tel Aviv, parce que là, on a des missiles balistiques, on a toute une capacité militaire. Et là, c'est presque une destruction mutuelle assurée, hein, si une guerre s'ouvre entre les deux. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenir une pression telle qu'elle existe aujourd'hui et que vous avez qualifiée d'escarmouche, parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce qui pourrait arriver de pire. Il n'est pas certain que l'opinion israélienne, qui est déjà quand même énormément éprouvée par ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est-à-dire la guerre qui continue sans décision au bout de 6 mois, il n'est pas sûr qu'elle apporte son soutien à une guerre dont l'ampleur et les dégâts pourraient être considérables. Et il faut bien comprendre que c'est à cette aune-là qu'aujourd'hui, et déjà depuis longtemps, les Israéliens jugent une opération militaire. Combien de victimes font-elles parmi les civils et les soldats israéliens? C'est à ce critère-là qu'on juge du bien fondé ou non d'une opération militaire. Ce qu'on aimerait, c'est que par une pression continue, y compris peut-être par ce qui s'est passé hier vis-à-vis d'Iran, on décide d'une nouvelle équation stratégique, c'est-à-dire d'un accord diplomatique. Et ce que les Israéliens souhaiteraient, c'est que par cette pression-là, sans arriver à la guerre, on exige du Hezbollah qui lui aussi craint la guerre dont elle pourrait être soupçonnée de l'avoir catalysé, que la diplomatie reprenne ses droits et qu'on fasse respecter la résolution de l'ONU qui avait été décrétée après la seconde guerre du Liban en 2006 et qui prévoyait que le Hezbollah ne pourrait pas franchir une certaine ligne qui a été largement et franchie par le Hezbollah, et donc qu'on établisse une sorte de couloir de sécurité. Mais il faut dire, pour terminer, que cette image-là du nord du pays, notamment de la localité de Metula, qui est la localité de quelques milliers d'habitants, la plus au nord du pays, soit vidée de ses habitants, c'est, de ce point de vue-là, une mise en cause, je dirais, de toute la stratégie sécuritaire et militaire d'Israël depuis 1948, c'est-à-dire que la guerre, elle doit être de l'autre côté, elle doit pas se dérouler du côté... Là, s'il y a une bande de sécurité, un couloir de sécurité à établir, ça doit pas être du côté israélien, ça doit être du côté libanais, ici, en l'occurrence.
Bruno Tertrais, justement, il y a des rumeurs, maintenant, depuis plusieurs semaines, qu'il y aurait des tractations entre Washington et le Hezbollah, disant au Hezbollah, écoutez, vous prenez en gros le contrôle du Liban, je simplifie, mais en échange, effectivement, vous respectez cette ligne de retrait, et on en arrive au rôle central que jouent à nouveau les États-Unis, qui pour la première fois sont quand même, samedi dernier, intervenus très directement, militairement, pour soutenir Israël, donc une participation militaire directe avec les Britanniques, les Français et les Jordaniens. Mais donc, encore une fois, les États-Unis, qui aussi essayent de contenir les Houthis au Yémen, qui compromettent le commerce maritime, les États-Unis sont à nouveau au centre du jeu. On n'a pas l'impression qu'ils en aient envie, mais ils y sont.
Je ne vais pas spéculer sur le contenu des conversations entre les États-Unis et les différents interlocuteurs libanais, mais il est vrai qu'il y a une très intense activité diplomatique entre les différentes entités libanaises, directement ou à travers des intermédiaires, les États-Unis et la France, qui se retrouve, à ma connaissance, un tout petit peu isolée là-dedans, parce que si elle croit toujours pouvoir jouer un rôle au Liban, eh bien, une fois que les Américains s'y mettent, bah, la place de Paris n'est pas toujours reconnue. Puis Paris n'a pas toujours été très habile sur sa manière de gérer la question libanaise depuis l'explosion du port à l'été 2020. Les États-Unis, effectivement, ne veulent pas. Personne ne veut une troisième, quatrième, cinquième, j'ai arrêté de compter, guerre au Proche-Orient qui impliquerait directement Israël, le Hezbollah et de fait l'État libanais, parce que les Israéliens le disent depuis des années. La prochaine fois, nous considérerons que l'État libanais, qui est l'hôte du Hezbollah, et que le Hezbollah prit une telle place dans le fonctionnement du pays qu'on ne peut plus séparer le Liban du Hezbollah. Moi, je compare parfois le débat en Israël, enfin sous le contrôle de Denis Charbi, sur le Hezbollah, au débat qui a eu lieu en septembre-octobre 2001 aux États-Unis. À savoir que on a pris un coup sur la tête. Est-ce qu'on peut encore supporter qu'il y ait une autre menace potentielle derrière? Autrement dit, quelque part, les Israéliens parlent du Hezbollah comme les Américains parlaient de l'Irak, je dis bien l'Irak, après le 11 septembre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on subisse au nord ce qu'on a subi au sud? D'autant plus que, et Denis Charbi le rappelait très bien, tout le nord d'Israël est vidé. Donc il y a tout ça qui est pris en compte. Les États-Unis, je prends maintenant votre question, les États-Unis essayent, comme ils le font en Ukraine d'ailleurs, de manière un peu différente, mais essayent en gros de réfréner les ardeurs de leurs amis et alliés, et ils ont parfois les moyens de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des leviers, parce qu'ils ont des leviers d'assistance militaire, parce qu'ils ont des... On en a parlé tout à l'heure à propos de la fameuse planification éventuelle sur les sites nucléaires iraniens. On peut en parler aussi à propos de l'Ukraine, où les États-Unis retiennent un certain nombre de matériel, et ils ont, non pas une influence constante et absolue sur Israël, ça c'est totalement faux. Il y a deux légendes qu'on voit parfois dans les débats politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a une légende qui veut que Israël fait ce que les États-Unis veut qu'il fasse, et la légende inverse qui fait que les États-Unis font ce que qu'Israël fasse. Les deux sont faux.
Mais ce qu'on a vu quand même, c'est que il y a évidemment ce qui est communiqué et puis ce qui se passe en vrai. Mais on a vu quand même Joe Biden qui encore une fois dit à Benjamin Netanyahu, bon, arrêtez-vous là, et on voit Netanyahu hier qui riposte quand même.
Mais parce que la riposte qui a été effectivement conduite par les Israéliens reste tout à fait, entre guillemets, acceptable par les Américains. Je ne sais pas si ça a été effectivement validé ou pas par Washington, mais ça rentre totalement dans le cadre de ce qui était compréhensible et acceptable, pas à la fois par Washington et par Téhéran. Voilà. Donc, pour l'instant, so far, so good, comme l'on dit. Je reste persuadé qu'il y aura d'autres actions, mais en tout cas, qu'on n'ira pas au-delà de ce qui est supportable pour les États-Unis, dont Israël a quand même besoin pour un certain nombre de raisons militaires et politiques encore aujourd'hui.
Alors on sait que, là encore, Washington avec une fermeté accrue, expliqué au gouvernement israélien qu'il n'était pas question de lancer l'attaque à Rafah dans l'enclave de Gaza. Gaza qui du coup passe complètement en arrière-plan des préoccupations internationales. Est-ce que là aussi, il y aurait une conversation en disant « Bon, calmez-vous sur l'Iran, mais d'accord, Rafah ?»
Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler...
Enfin, c'est du café du commerce.
Oui, pardon, Christine, mais je crois que nous devons aux auditeurs un petit peu plus de subtilité.
Et je dis moi-même, c'est du café du commerce. Mais...
Absolument. Mais je serais étonné que les termes de la conversation soient aussi simples. Il reste un fait. Le fait est que Israël n'a pas lancé de grande offensive sur Rafah, comme en tout cas d'offensive massive et intense dans tous les sens du terme, comme il aurait pu le faire, alors que il avait les moyens de le faire, tout simplement. Donc ça n'a pas encore été fait. Est-ce que c'est un produit des difficultés militaires, de la prise en compte de la situation humanitaire, des pressions américaines? Je ne sais pas, mais le fait est que ça ne s'est pas produit. Ça m'étonnerait tout de même qu'Israël ne fasse rien sur Rafah, mais ça m'étonnerait aussi que ça ait été simplement une sorte de marchandage, comme vous dites, qui relèverait du café, du commerce.
Héloïse Fayet, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le G7, qui est en ce moment dirigé par l'Italie, en annonce aussi. L'Union européenne annonce aussi de nouvelles sanctions, très spécifiquement contre les fabricants de missiles et de drones. Est-ce que c'est efficace ?
Moi, je trouve qu'il y a quand même une sorte peut-être d'addiction aux sanctions parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire que les sanctions sont quand même relativement faciles à implémenter et qu'on trouvera toujours en fait de nouvelles personnes à sanctionner, de nouvelles entreprises à sanctionner. Même si là, c'est important de bien montrer que ce n'est pas en rapport avec le programme nucléaire iranien comme ça l'est habituellement, mais c'est plutôt sur la justification que l'Iran fournit justement les drones dont leurs fabricants sont impactés par des sanctions à la Russie. Et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, donc en format E3, avaient aussi plaidé pour l'application de nouvelles sanctions. Mais effectivement, vu qu'on ne sait pas quoi faire d'autre avec le régime iranien, et que en réalité la voie de la diplomatie, elle est surtout portée par les États-Unis, et qu'actuellement il n'y a pas d'intérêt aux États-Unis à essayer de renouer un dialogue avec l'Iran, et c'est encore moins le cas avec ce qui se passe en fait au Moyen-Orient depuis octobre 2023. Effectivement, on en est à imposer de nouvelles sanctions qui, à mon sens, peuvent être efficaces effectivement pour freiner la production industrielle et militaire iranienne, mais en fait, in fine, ça reste quand même ensuite la population iranienne qui en est la première victime, étant donné que les gardiens de la révolution, donc ceux qu'on essaye de cibler avec les sanctions, arrivent toujours à y échapper au travers du marché noir. Et puis, là, je crois que c'est le record cette année de vente de pétrole iranien, notamment en fait grâce à la Chine qui se fiche totalement des sanctions directes ou indirectes américaines et européennes et qui arrive en fait à offrir une porte de sortie au régime iranien afin de lui donner l'oxygène dont il a besoin et donc ensuite continuer à entretenir effectivement les élites iraniennes.
35 milliards de dollars d'après les chiffres imprimés avant-hier par le Financial Times. Donc ça veut dire que la Chine importe massivement du pétrole iranien, que la Russie importe massivement des drones et des fournitures militaires fabriquées en Iran. Donc on voit bien là ce front anti-américain, anti-occidental qui est à l'œuvre en Ukraine, très précisément.
Oui, ça fait partie déjà d'une stratégie iranienne qu'on a appelée les Américains ont leur pivot vers l'Asie, les Iraniens ont leur regard vers l'Est. Il faut rappeler que au début des années 2000-2010, il y avait quand même énormément de relations commerciales entre l'Iran et l'Union européenne, avec l'Italie, avec l'Allemagne, et que en fait l'incapacité des entreprises européennes à rester en Iran après la sortie par les États-Unis de l'accord de Vienne en 2018 ont provoqué une sorte de crise de confiance en Iran qui s'ajoute évidemment d'un discours très ancien contre l'impérialisme américain entre guillemets, contre l'Occident, et donc les Iraniens se sont effectivement tournés vers la Russie et surtout vers la Chine pour des nouvelles portes de sortie en fait économiques. Ils ont aussi rejoint l'organisation de coopération de Shanghai. Et puis, cet au-delà du front ukrainien, ce rapprochement, il se concrétise aussi sur le plan militaire. Début mars, il y avait par exemple un exercice maritime conjoint entre la Chine, l'Iran et la Russie dans le golfe d'Oman, où des puissances, on va dire, que la France pense être proche d'elle, comme l'Inde par exemple, y ont assisté sans trop de protestations. Pareil pour certains pays du Golfe. Donc on voit effectivement cette... Alors je dirais pas que c'est un axe, enfin les Américains reprennent en ce moment le terme d'axe du mal pour qualifier justement ce sort d'alignement Russie, Iran, Chine, en ajoutant parfois la Corée du Nord. Je qualifierais pas forcément d'axe ni même d'alliance parce qu'il n'y a pas, en fait c'est quand même quelque chose qui est extrêmement asymétrique avec la Chine tout en haut, la Russie au milieu, l'Iran et la Corée du Nord en bas, avec des intérêts asymétriques également, une méfiance quand même profonde qui demeure entre ces États. Mais c'est certain que oui, ça représente une menace ensuite pour les États-Unis et l'Europe.
Azadeh Khiang et la population iranienne dans tout cela. On se souvient avec admiration de ces femmes, de ces jeunes filles arrachant leur voile. La répression s'est durcie ces derniers temps.
Tout à fait. La répression s'est durcie. Les polices de mœurs sont de retour dans les rues, notamment à Téhéran et dans des grandes villes. Ils frappent et répriment les femmes qui refusent de porter le voile, et ça c'était concomitante avec l'attaque contre Israël, c'est-à-dire pratiquement le même jour. On a vu les rues de Téhéran en particulier, qui ressemblaient vraiment à un champ de bataille, avec des forces militaires, enfin de police partout, stationnées partout, et en même temps cette attaque contre Israël. Et aujourd'hui, ceux qui se permettent de critiquer déjà ces attaques sont considérés comme espions des Israéliens. Il y a des journaux qui ont été suspendus en Iran pour avoir titré « Israël n'a pas été touché », mais ce qui a été touché, c'était la bourse de Téhéran, puisque la monnaie iranienne a perdu 10% de sa valeur par rapport au dollar au lendemain de l'attaque iranienne contre Israël, et que la bourse de Téhéran était dans une situation très 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 difficile. Quand les devises augmentent et que la monnaie iranienne baisse, ce qui est le cas actuellement, ça veut dire que tout devient encore plus cher, et donc la classe moyenne iranienne est en voie de disparition réellement. Il y a alors des pauvres, des très très pauvres, qui sont un petit peu aidés, équivalent de 5 à 6 dollars par mois par le régime, ce qui est rien du tout, mais afin qu'ils puissent manger un tout petit peu. Mais au-delà de ça, l'appauvrissement des classes moyennes, et également la répression de plus en plus forte qui frappe la société civile iranienne, et les sanctions, ça a été dit, internationales ont été jusque-là au détriment de la société civile iranienne, puisque le régime continue à vendre son pétrole. Aujourd'hui, 1 500 000 barils de pétrole par jour selon l'OPEC. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Après, officieusement aussi, on sait que à travers la contrebande, le pétrole est vendu, notamment par les gardiens de la révolution, et l'argent, les revenus pétroliers ne sont pas dépensés pour le bien-être de la population, ni pour le secteur de la santé qui se trouve dans un état vraiment lamentable, ni éducation, puisque 1,5 million d'écoliers et écolières ne peuvent plus aller à l'école du fait de la pauvreté. En même temps, on constate que le programme nucléaire de l'Iran, l'arsenal militaire, tout ça se porte très très bien, y compris et à cela s'ajoute bien évidemment des pastarans, des religieux qui gouvernent aussi l'Iran, etc. Donc la corruption est vraiment invraisemblable. C'est-à-dire que si on sait, par exemple, on disait que l'Iran a dépensé $1 milliard pour la fabrication des drones et des missiles qui ont été envoyés sur Israël, en même temps, c'est rien du tout par rapport au volume de corruption de plusieurs milliards de dollars à chaque fois, qui ont été révélés par une partie de la presse iranienne, qui sont aujourd'hui très contrôlées et muselées. Donc on en est là, effectivement, la répression à l'intérieur s'est renforcée, s'est aggravée, et on voit aussi cette situation de tension. Il ne faut pas oublier que le régime islamique d'Iran, ça fait 45 ans qu'il crée eux-mêmes la tension à l'échelle régionale et interne aussi, ou internationale, à travers le programme de nucléaire. Et c'est grâce à ces tensions qu'ils ont jusque-là réussi à se maintenir au pouvoir, parce que la tension régionale et internationale veut dire on réprime davantage l'opposition, on réprime davantage la société civile. Et malheureusement, je constate que effectivement, comme ça a été dit, les Occidentaux à chaque fois imposent de nouvelles sanctions contre qui ? Contre la société civile iranienne, en réalité, qui affaiblit cette société.
Bruno Tertrais, l'autre paradoxe de cette situation, donc les souffrances des Iraniens d'un côté, mais il y a aussi, d'une certaine manière, le cadeau, mais la marge de manœuvre élargie que Téhéran a offert à Benjamin Netanyahou, en le sortant de l'isolement de plus en plus évident dans lequel l'enfermait l'acharnement contre les Palestiniens, que ce soit à Gaza ou dans les territoires occupés. Et du coup, Netanyahou dit « mais merci la Jordanie, et pourquoi pas un front uni Élie Barnavi en particulier, dans Le Monde avant-hier disait, mais oui, pourquoi pas imaginer une alliance israélo-arabe contre l'Iran.
Oui, écoutez, je préfère parler de pause dans la dégradation de l'image d'Israël dans la région et dans le monde, plutôt que de renversement de situation spectaculaire qui conduirait à voir maintenant les prémices d'une nouvelle grande alliance entre Israël, les pays occidentaux et les principaux pays arabes de la région. Que s'est-il passé? Il n'y a pas eu d'alliance militaire de fait pour protéger Israël. Il y a eu tout simplement deux pays, l'Irak et la Jordanie, qui ont vu des missiles et des drones traverser leur territoire et qui donc se sont sentis à juste titre directement concernés et se sont avant tout de choses préoccupés de protéger leur propre territoire. C'est pas pour les beaux yeux de Benjamin Netanyahu qu'ils ont fait ça. Donc en revanche, là où ça change un petit peu les choses quand même, c'est que ça rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié dans la région, et ils sont peu nombreux, ça rappelle quand même que l'Iran est une grande puissance militaire qui désormais, surtout, c'est ça la nouveauté, n'hésite pas à utiliser de manière massive et simultanée des dizaines de vecteurs différents contre un pays qu'il considère être son ennemi. À bon entendeur, salut. Je peux vous dire qu'à Riyad, en Arabie Saoudite, on a aussi compris le message. Et donc, quelque part, ça conforte, on va dire, ça conforte l'idée selon laquelle, eh bien, derrière tout cela, derrière toutes ces horreurs et ces tragédies, le possible rapprochement un jour entre Israël et l'Arabie saoudite est quelque chose qui reste d'actualité. Moi, je ne crois pas du tout. On a parlé, il y a un an et demi, de réconciliation, je cite, à propos du rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous parrainage chinois. Enfin, la Chine avait essentiellement fait l'intermédiaire. D'abord, ce mot de réconciliation, je le trouve assez peu convaincant, comme si c'était une brouille amicale. C'est pas du tout ça. Mais il y a eu un rétablissement des relations diplomatiques, soit, mais ça n'a pas été le tournant que certains, à tort, attendaient. D'autres, dont je suis, étaient beaucoup plus méfiants. Donc je crois que finalement, que les fondamentaux de la région, à savoir la crainte d'une république islamique qui est quand même fait cette démonstration de force, et de plus en plus laisse une place de plus en plus forte, et elle le dit, elle le fait savoir aux gardiens de la révolution plutôt que Mollah. Je ne sais pas pourquoi il y a encore des gens qui parlent de république des Mollahs ou de pays des régimes Mollahs. C'est totalement absurde. Il y a les gardiens de la révolution sous votre contrôle, à Zadeké, sont la véritable colonne vertébrale du régime aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que je crois qu'il n'y a pas du tout de nouvelle alliance qui est en train de se faire entre Israël et les pays arabes, mais il y a quand même derrière ce mouvement de normalisation entre Israël et non seulement ses voisins, mais peut-être à terme l'Arabie saoudite, qui est toujours là. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup aussi aux États-Unis en ce moment. Les États-Unis sont en train de battre tous les fers en même temps. Mais il y a de nouveau ce débat sur faut-il accorder une garantie de sécurité à l'Arabie saoudite? Si oui, avec quelle contrepartie, etc.
On remarque d'ailleurs que les 6 pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, les rapprochant d'Israël, n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques malgré les événements de Gaza. Denis Charby, pour vous, Benjamin Netanyahou, on sait à quel point il a été férocement contesté sur le plan politique en Israël. On sait les divisions au sein du cabinet de guerre et au sein du gouvernement. Est-ce que Netanyahou sort renforcé ou pas de cette séquence?
Alors, les derniers sondages publiés hier montrent que et le Likoud et le parti d'opposition, qui est effectivement actuellement dans le gouvernement, celui de Benny Gantz, se renforcent. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ce sont les extrêmes qui en pâtissent, que ce soit à l'extrême droite ou à la gauche. Moi, je voudrais peut-être souligner deux choses. La première, le grand paradoxe quand même de toute la situation, c'est que on nous annonçait depuis des années que les États-Unis voulaient se voir ailleurs, se désintéresser de la région. Ils sont forcés de rester les maîtres du jeu et leur responsabilité, effectivement, est en jeu. Et je pense qu'ils assument, en tout cas Joe Biden assume parfaitement ce rôle-là, quand bien même ce n'était pas celui-là. Rappelons-le qu'il a commencé son règne avec le départ des Américains d'Afghanistan. Donc de ce point de vue-là, on voit que l'histoire peut être rebelle au projet que les acteurs politiques peuvent former au début de mandat. Pour en revenir à Israël, il y a une question, il faut l'évoquer. pour les Israéliens, la question principale, ce sont les otages. C'est ça qui les, c'est ça qui hante leur nuit. C'est ça qui les absorbe tous les jours. C'est là-dessus que le, je dirais, l'opinion est toujours tendue et on n'en parle pas assez. Et je dirais que peut-être, même si bien sûr on prête attention à ce qui se passe, hein, la nuit de vendredi à samedi dernier a été quand même une nuit assez particulière où on attendait 3 heures durant qu'elle allait être le résultat de cette frappe iranienne, mais la nouvelle qui a le plus inquiété, c'est effectivement que la négociation n'a pas abouti, alors qu'on en parlait déjà depuis quelques semaines. Et c'est là-dessus
la négociation sur la trêve. Pardon, je vous interromps. Je précise donc la négociation sur une trêve à Gaza,
oui, de
et le Qatar qui depuis dit réexaminer son rôle. Ce qui veut dire que, voilà, les otages, hélas, leur sort reste totalement en suspens.
C'est vrai, je n'accorderais pas une importance énorme. Je ne vois pas la déclaration du Qatar comme vous souhaitant dire c'est terminé. Je crois qu'elle a tout simplement voulu riposter à la mise en cause par Benjamin Netanyahou du rôle du Qatar en disant attendez, si vous voulez que je joue les messieurs bons offices, si vous voulez que je sois les négociateurs, vous pouvez pas publiquement me mettre en cause. Donc mettez un peu la sourdine dessus. Et c'est vrai que depuis, et puis les événements ont sans doute justifié pourquoi on n'a pas reparlé de cela. Je ne pense pas que les Qataris veulent se démettre de leurs fonctions. Ils veulent tout simplement que l'ambiance, voilà, qu'ils soient remerciés en quelque sorte du rôle qu'ils jouent. Mais en tout cas, c'est là le point faible aujourd'hui pour Netanyahou, c'est le fait qu'on le tient responsable de ne pas avoir cédé plus tôt dans des négociations qui semblaient où ce qui était requis d'Israël apparaissait comme plus tolérable que ce qu'on requiert aujourd'hui. Et c'est le sentiment que plus on tarde, moins il y aura d'otages vivants et moins peut-être la négociation aboutira. C'est ça aujourd'hui essentiellement le point faible. Sur la poursuite de la guerre, alors je dirais que là on est partagé entre la conviction qu'il faudra quand même rentrer dans Rafah, non pas pour perpétuer le génocide comme on accuse Israël à tort, mais tout simplement pour éliminer, pour aller au bout de l'objectif politique qui est d'éliminer le Hamas, pour permettre précisément peut-être qu'ensuite une situation nouvelle émerge qui permette un retour à la négociation avec une autorité palestinienne rénovée, là où une autre partie de la population israélienne s'y oppose, mais pas parce qu'elle pense que le Hamas mérite d'être gracié après les massacres de masse du 7 octobre, mais parce que cet objectif est difficile à atteindre et que ce n'est pas 6 mois ou encore 1 mois ou 2 mois de plus, mais c'est beaucoup plus de temps, ce temps-là que précisément les Occidentaux et les Américains, quand bien même ils comprennent que cette guerre présente repose sur une légitime défense, mais le prix à payer pour les Palestiniens est trop élevé et ça, leur opinion publique ne saurait le supporter. La vraie question, c'est est-ce qu'Israël est capable de mener ce dernier tronçon de la guerre sans avoir à faire payer aussi massivement qu'elle l'a fait jusqu'à présent la population civile palestinienne ? Tout est là.
Tout est là, et sur un autre théâtre, Héloïse Fayet, l'Ukraine. On voit évidemment que le président Zelensky, dès les événements de la semaine dernière, a dit « mais et nous ?» Pourquoi est-ce que les États-Unis, les Européens n'accordent pas à l'Ukraine? Et on sait que sur la ligne de front à l'Est, Zelensky est d'ailleurs allé visiter ses troupes hier sur cette ligne de front, on sait que la situation devient critique. La réponse, il n'y en a pas, en fait. Alors, pourquoi pas l'Ukraine ?
Alors, il peut y avoir une réponse technique déjà, notamment parce que les drones russes et les missiles que la Russie emploie en Ukraine ne sont pas comparables techniquement aux drones et aux missiles iraniens. Je veux dire, ils sont bien plus performants. Et surtout, la Russie n'a pas, on va dire, la délicatesse de prévenir l'Ukraine 15 jours en avant, 15 jours en amont, lorsqu'il y a une, lorsqu'elle va tirer des missiles balistiques et des drones.
Et on peut, pardon, préciser qu'Israël a toujours refusé de livrer à l'Ukraine le dôme de fer.
Enfin, oui, parce qu'il y a des relations russo-israéliennes qui sont encore existantes et Israël n'aurait jamais pu faire la frappe sur le consulat de Damas sans une déconfliction avec la Russie qui, rappelons-le, est quand même très présente en Syrie et n'a aucun intérêt à ce que les Iraniens, en fait, soient trop présents là aussi en Syrie. Donc, en fait, l'Ukraine se retrouve effectivement en partie victime de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est aussi une situation différente, donc sur le plan technique et puis après sur le plan politique où il y a quand même une aversion, je pense, au risque qui n'est pas du tout la même entre effectivement défendre participer à la défense d'Israël donc sur un État qui est beaucoup plus petit et donc comme je disais face à l'Iran qui n'est que entre guillemets une puissance régionale avec des moyens qui sont déjà déployés dans la région, par exemple les chasseurs français ils étaient déjà sur la base aérienne en Jordanie. Et après effectivement il y a aussi une question de taille, en fait de taille de la ligne de front, les moyens qui devraient être déployés pour faire face à renforcer la défense sol-air ukrainienne serait absolument incomparable face à ce qui est nécessaire face à Israël. Et puis après vous avez encore plus au niveau stratégique en fait toute une réflexion sur peut-on réellement utiliser de la défense antimissile face à un État doté de l'arme nucléaire. Mais là je pense que Bruno a très envie de répondre.
Oui, bien sûr. Mais là on est vraiment dans les deux poids deux mesures.
Oui, enfin oui et non. Non, parce qu'il y a quand même une énorme différence. Et je suis un peu étonné qu'Eloïse Fayed ne l'ait pas mentionné tout de suite. C'est que du point de vue américain, il y a quand même le fait que la Russie, c'est une puissance nucléaire. Et que Joe Biden et toute son administration ont été élevés, et c'est tout à fait compréhensible, dans l'idée que, bah oui, on ne fait pas n'importe quoi avec une puissance nucléaire. C'est quand même un petit peu le béaba de la stratégie aujourd'hui. Un mot sur les États-Unis et le Moyen-Orient. Moi, je dis depuis très longtemps, en plaisantant, que chaque président américain, qui à chaque fois dit « moi je vais me retirer du Moyen-Orient hein », ouais. Chaque nouveau président américain, il a dit « je vais me préoccuper des États-Unis d'abord, de vous, my fellow Americans d'abord, et ensuite éventuellement de l'Asie, pour l'Europe on verra, le Moyen-Orient, il vaut mieux s'en retirer ». À chaque fois, c'est la même chose. Chaque président américain devrait avoir une plaque dans son bureau qui dit peut-être pour son premier jour d'investiture, et qui lui dit « peut-être que tu ne t'intéresses pas au Moyen-Orient ». Mais le Moyen-Orient s'intéressera à toi. À chaque fois, c'est la même chose.
Mais là, il y a le Moyen-Orient et l'Ukraine.
Oui, donc, oui, mais alors justement, ce qui se passe là ce soir est extrêmement important, puisqu'on. Alors moi, j'ai pensé après l'attaque iranienne que l'Ukraine pouvait souffrir de ce débat à Washington, puisque c'était une formidable démonstration aux yeux du Congrès des États-Unis qu'Israël avait vraiment besoin d'assistance pour sa défense. Bon, et que donc l'argent des contribuables américains était mieux utilisé, selon ce raisonnement, à soutenir Israël qu'à soutenir l'Ukraine.
Mais le
et
patron à la Chambre des représentants, le patron républicain, a décidé de détacher.
Et finalement, nous verrons ce soir, mais oui. On est en train de se diriger vers un scénario relativement favorable pour tout le monde, à savoir que l'un n'est pas forcément lié à l'autre et que les choses vont.
Paquet financier.
L'Ukraine n'est pas otage du paquet israélien.
Voilà. Et que le paquet financier pourrait être voté ce soir.
Nous verrons ce soir.
À la Chambre des représentants. Voilà.
Juste un tout petit mot quand même Eloïse Fayed a tout à fait raison de rappeler les relations de travail qui existent encore et qui sont compréhensibles entre Israël et la Russie. Mais les Israéliens, ils fabriquent pas de la défense antimissile comme de la saucisse, hein, pour reprendre la formule de Nikita Khrushchev. C'est quand même, on parle toujours du dôme de fer d'ailleurs, mais il faut bien se souvenir, il y a trois couches différentes, hein. Il y a la fronde de David, le dôme de fer, le troisième et le système Arrow. Bon, ça se fabrique pas comme ça. Donc je crois que c'est pas seulement une question de bonne relation avec la Russie, c'est aussi simplement le fait que en ce moment, et on peut les comprendre, les Israéliens ont à peu près besoin de tout. Je ne sais pas s'ils ont grand-chose à exporter, d'ailleurs, même temporairement. Je ne sais
Effectivement,
pas si...
et puis surtout, un point qu'on n'a pas abordé, c'est que ça coûte extrêmement cher. Enfin, je veux dire, la défense...
Oui, d'accord, mais enfin, tout coûte cher. Ce que l'on voit, c'est qu'on est au-delà de 2 ans de guerre en Ukraine, où, avec un courage absolument admirable, les Ukrainiens tiennent bon. On voit... les Occidentaux qui, à chaque fois, disent « bien sûr, on vous fournit des armes », et puis on dit « oui, mais pas trop », et puis ça arrive trop tard. On arrive quand même à un moment où le patron de la CIA vient de dire « l'Ukraine risque de perdre la guerre ». Et à ce moment-là, que devient la crédibilité des États-Unis, des Européens, face à M. Poutine, à Monsieur Xi Jinping et au guide suprême iranien. On est quand même dans cette situation-là.
Il faut poser la question à Olaf Scholz.
C'est le vrai débat, un débat qu'il est très difficile de trancher, mais qui est central absolument aujourd'hui dans toutes les, pour toutes les capitales. Est-ce que ce que nous faisons, nous, Américains, Européens, Français ou autres, vis-à-vis de la Russie, a une influence sur la manière dont la Chine nous perçoit ? Est-ce que, dans le débat américain, ce qu'on fait au Moyen-Orient a un impact dans la manière dont Monsieur Poutine nous perçoit, c'est ce qu'on appelle le débat sur la réputation. Est-ce que la réputation d'un État, est-ce que la dissuasion dépend de la réputation ? C'est un énorme débat. Ça pourrait d'ailleurs vraiment remplir une émission très intéressante.
Mais
il n'y a pas de réponse simple à cette question, parce qu'à la fin, ce sont quand même des jugements de valeur. Ni vous ni moi ne sommes dans la tête des dirigeants dont nous parlons.
Non, mais c'est évidemment une question que Vladimir Poutine, lui, ne se pose pas, Bruno.
Je ne sais pas ce qu'il se pose comme question aujourd'hui. Je pense qu'il a un état d'esprit qui est beaucoup plus fermé aujourd'hui depuis la crise du Covid, depuis la radicalisation du régime russe, et qu'il a son propre logiciel de fonctionnement qui n'est guère influencé, je suppose, en tout cas c'est une hypothèse que j'émets, par les événements extérieurs.
Est-ce que néanmoins, et en guise de conclusion provisoire, et on surveille évidemment avec beaucoup d'inquiétude, on voit que les marchés pétroliers évidemment se sont enflammés, le prix du pétrole a déjà augmenté de 3%, il y a, comme le disait Azadeh Kian, les répercussions directes sur la population iranienne, l'angoisse en Israël, l'angoisse en Ukraine, on est véritablement dans un climat international extrêmement, extrêmement pesant. Donc Bruno Tertrais, en guise de conclusion, est-ce que la corrélation entre Moyen-Orient et Ukraine ne démontre pas à l'évidence la constitution de cet axe anti-occidental?
Je préfère parler de famille. Alors, je disais en plaisantant
non,
sur
mais
notre
ça,
antenne.
C'est votre côté sentimental.
Non, pas du tout. Je disais, ou alors, côté plaisantin, l'amicale des autoritaires associées, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas un axe, et surtout pas une alliance militaire. Héloïse y faisait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement de défense réciproque de ces pays les uns vis-à-vis des autres. La Chine n'a pas du tout envie d'aller défendre la Russie. La Russie n'a pas du tout envie d'aller défendre l'Iran, etc. Donc, quand je dis une famille, c'est-à-dire ce sont des relations de coopération, d'intérêt mutuel, qui se renforcent effectivement. Chine, Iran, Russie, Corée du Nord. Je rappelle quand même qu'il y a une constante dans la diplomatie russe depuis plus de 20 ans, c'est de dire, ça s'appelait la doctrine Primakov. Nos alliés naturels, disait M. Primakov, Premier ministre de M. Yeltsin, ce sont la Chine et l'Iran. Donc ça vient de loin et ce n'est pas forcément nos actions à nous occidentaux qui viennent tout déterminer. Ce sont des pays qui font leurs propres choix et c'est vrai qu'on peut parler de famille ou de groupes ou d'amicales des autoritaires associés, si vous voulez.
Eh bien, merci infiniment à vous quatre. Bruno Tertrais, je rappelle votre tout dernier ouvrage, Pax Atomica, théorie, pratique et limites de la dissuasion chez Odile Jacob, et aussi La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Héloïse Fayet, vous publiez dans Confluence Méditerranée un croissant chiite en miettes, évolution de l'influence régionale de l'Iran depuis 1979. Là, vous êtes au cœur du sujet. Azadeh Kian, vous avez publié en anglais un ouvrage sur l'identité nationale iranienne en fonction de l'ethnicité et de la religion. Denis Charby, vous avez publié un ouvrage, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passion, une troisième édition réactualisée parue aux éditions du Cavalier Bleu en mai de l'année dernière. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Cédric Chatelus à la technique, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Nous sommes samedi et voici Nora Amadi sous les radars. Très bon week-end et à samedi prochain.